Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.
Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Saint-Ferréol. Je vous retrouve avec Donnez-moi de vos nouvelles pour une deuxième émission consacrée à la guerre en Ukraine au travers des lettres d'amour et de guerre que se sont échangées Pavlo et Victoria Matyusha pendant des mois, soit une cinquantaine de lettres. Petit rappel, Pavlo s'est engagé dès le début de la guerre. Il a 40 ans, il est capitaine dans l'armée ukrainienne, il est instructeur au combat et a choisi comme nom de code militaire Voltaire, parce que, dit-il, qui dit instruction dit lumière. Il parle parfaitement le français, il a vécu en France, a eu un diplôme à HEC, et c'est tout naturellement que Victoria est allée s'installer à Paris avec leurs 4 enfants. Elle est interprète. Les mois passent. Victoria supporte de plus en plus mal la séparation, inquiétude, frustration et les 1000 tracasseries du quotidien. Elle insiste auprès de Pavlo pour qu'il quitte l'armée et les rejoigne. Elle va jusqu'à déposer une demande de divorce. Doan Bui, grand reporter à l'Obs, a initié cette correspondance pour nourrir quelques réponses à des questions récurrentes. Comment vivent des familles avec enfants séparées par la guerre? Que devient la relation amoureuse à distance? La correspondance avec des vraies lettres à l'ancienne peut-elle sauver un couple? Mais retrouvons plutôt Victoria et Pavlo. Conversation entre Doan et Victoria sur Signal.
Mais les enfants savent pour le divorce?
Oui, on en parle. Ils sont de mon côté. Tu te souviens, je t'avais déjà dit qu'ils mettaient eux aussi la pression à Pavlo.
Mais ils sont au courant que tu as demandé le divorce?
Oui, je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça. Si jamais la procédure arrive à son terme, Léon, notre aîné, s'est porté volontaire pour rentrer en Ukraine. Pour obliger son père à partir de l'armée. Si moi je reste avec les petits et que Léon est tout seul, Pavlo n'aura pas le choix. Enfin, je crois.
Oh my God, j'y crois pas. Tu vas aller jusqu'au bout alors?
Je n'arrive pas à envisager le futur. J'espère juste qu'il va prendre la bonne décision.
Mon amour, tu sais que je t'écris ces lettres d'un peu partout? Dans ma voiture, dans une chambre d'hôtel, dans un bunker, et parfois même depuis un champ d'entraînement de tir, en tapant sur mon téléphone. J'adore écrire comme ça sur le moment. Je marche et je prends quelques notes que je partagerai plus tard avec toi. Je suis en ce moment assez proche de la ligne de front. Quelques missiles ont touché Zaporizhia la nuit dernière. Pour atteindre l'unité, il faut emprunter cette route dont je t'ai parlé. Cette route, elle est spéciale. Elle est comme un fil tendu entre le monde normal, le monde de la vie et celui de la guerre. Il y a encore de la vie dans ces villages. Pas mal de militaires y circulent, mais aussi encore quelques habitants. Dans ces villages proches du front, tu peux entendre le bruit des tirs d'artillerie très fort. Certains bâtiments sont complètement détruits. À travers les fenêtres pulvérisées, tu peux voir les fils et les prises électriques dans des morceaux de mur restés bizarrement intacts parmi ce chaos. Les routes de campagne deviennent impraticables après la pluie. On n'arrive presque plus à les distinguer. Je dois vérifier, avant l'entraînement, que la zone est OK pour nous. La Jeep ne peut aller plus loin et elle s'est embourbée dans le chemin quelques 100 mètres plus loin. Alors, je grimpe sur la colline à pied et là, quelle vue se déploie devant mes yeux ! Incroyable ! Si tu pouvais sentir le parfum de l'herbe, ce parfum d'été, j'entends les oiseaux chanter, il y a des hirondelles, des coucous, des alouettes, et des criquets se rajoutent au concert. Les cigognes, symbole de la paix et de la naissance, sont aussi là comme si elles nous disaient « tout ira bien ». C'est un paysage totalement idyllique. Et pourtant, en arrière-fond, j'entends le bruit intense de l'artillerie lourde, le bruit bien reconnaissable des canons dans le ciel ensoleillé. Ce que je vois autour de moi me stupéfie parfois. Si tu savais, mon amour, malgré le tonnerre assourdissant de l'artillerie, plusieurs villageois ne sont pas partis de chez eux. Ils continuent leur vie entre deux bombardements. Par exemple, ils pêchent, au son des tirs de canons et de mortiers. C'est surréaliste. D'un côté de la route, le champ d'entraînement de tir que j'ai installé, et de l'autre, ces villageois qui pêchent, tranquillement, si j'ose dire. Ma brigade est engagée dans des combats très intenses avec l'ennemi. Eh, nos gars, que te dire sur eux ? Ils font preuve d'un héroïsme digne des épopées de la mythologie. Beaucoup ont été décorés. Certains sont tombés sur le champ de bataille, hélas. J'essaie néanmoins de penser au bon côté des choses, s'il y en a un. La contre-offensive avance quand même. Quand j'ai quitté la zone d'entraînement, il pleuvait et le soleil brillait tout en même temps. Je suis content de t'avoir raconté cette journée, mon amour. J'avais besoin de t'en parler. Je veux être avec toi, ma chérie. Dès que possible. Je t'aime. Pavlo.
Mon cher Pavlo, je vais respecter la promesse que je t'ai faite. Je vais prendre une pause et partir en vacances cet été avec les enfants. Je me souviens de l'été dernier quand je les avais emmenés 2 semaines voir une amie en Albanie et que nous étions ensuite allés te voir à Lviv. Ce furent des moments de vrai bonheur, le bonheur pendant la guerre. Même les alertes anti-aériennes n'ont pas réussi à ternir ce sentiment de bonheur, de complétude. Nous étions tous ensemble, enfin. Cette année, j'aurais voulu les emmener à la mer, mais les prix sont vraiment déraisonnables. Peut-être que je devrais les emmener à la montagne. Qu'en penses-tu ? Je me souviens de nos vacances d'été à Lazurne, près de Kherson, en 2021. Nous nous étions tellement enamourés de ce lieu que nous rêvions d'y monter un festival en plein air. Pour remplacer ce merveilleux festival de jazz, le festival jazz Cocktebel en Crimée, qui n'existe plus depuis l'occupation. Et nous avions visité Skadovsk et cette île si spéciale, une île déserte avec la mer turquoise, comme aux Maldives. Mon esprit, mon âme se refusent à l'idée que tous ces endroits merveilleux soit aujourd'hui occupé par les Russes, qu'il y ait la guerre dans ces lieux paradisiaques. Crois-tu que nous pourrons à nouveau emmener les enfants là-bas, regarder la mer ? Lioubava et Léon se souviennent encore des fabuleuses pastèques que nous y avions mangées. Chaque fois que nous mangeons une pastèque ou un melon, ils en reparlent toujours. Oui. Ces pastèques étaient incroyablement délicieuses. Mais cette année, il n'y en aura pas. Et les prochaines années non plus, à cause de l'explosion du barrage de Nova Kakhovka. Je ne crois pas t'avoir encore raconté que mon histoire familiale était elle aussi associée à des pastèques. Quand mon arrière-grand-père est revenu de la Première Guerre mondiale, là où était sa famille, dans la région de Poltava, il a décidé d'essayer quelque chose d'un peu exotique. Alors il a planté des pastèques sur ses terres. Et puis il les a récoltées pour aller les vendre dans les grandes villes et toute la famille travaillait très dur au champ. Mais ils sont devenus riches grâce à ces fameuses pastèques. Et ils ont même acheté une voiture. C'était un événement extraordinaire pour le village. Hélas, les Soviétiques débarquèrent. Ma famille fut considérée comme court-coule. Les communistes voulaient que tout le monde soit égal. Alors, ils confisquèrent les biens individuels, les équipements agricoles, les cheptels d'animaux. À partir de ces biens confisqués, ils tentèrent d'établir une ferme collective. Tandis que les court-coules, ces travailleurs qui avaient bossé si dur et qui avaient eu le malheur de réussir, furent déportés en Sibérie. Ma famille est parvenue à s'échapper de ce train qui l'a déporté en Sibérie. Ta famille, je ne le sais que trop bien, n'a pas eu cette chance. Je me souviens que quand j'étais petite, je demandais toujours à mon père ce qui était arrivé aux fameuses pastèques. Il m'expliquait alors qu'elles avaient dépéri dans la ferme collective. Il n'y aurait plus jamais de pastèques. Bref, voilà mon rêve. Me gaver des pastèques succulentes de Kherson, si rouges, si sucrées, dans l'azurne libérée, et regarder nos enfants se baigner et faire les fous dans la mer noire. L'année prochaine, j'en suis sûre. Bisous. Victoria.
Bonjour, mon amour. La vie est si belle et si imprévue. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et moi, je le sais de source sûre, car je l'ai constaté de mes propres yeux. J'ai été au paradis et en enfer en l'espace de quelques heures. Une journée surréaliste. Je ne sais toujours pas comment tout ceci peut coexister, à quelques kilomètres de distance, comme si des anges et des démons s'effleuraient de leurs ailes. Désolé, je t'écris comme ça, de but en blanc, sans même te demander comment s'est passée ta journée. Dis-moi, comment vas-tu, ma chérie? Es-tu prête à aller à visiter avec moi le paradis et l'enfer? Tout ça dans cette lettre. Aujourd'hui, nous avons terminé notre entraînement un peu plus tôt à cause des températures torrides. 40 degrés à l'ombre. Repos. Et moi, j'ai décidé d'aller courir à Zaporizhia. Donc, je voulais aller voir le Dnipro, surtout après la destruction du barrage de Kakhovka. Et là, je me suis retrouvé en plein paradis, littéralement. Les berges du fleuve étaient aménagées en plages, transats, parasols, piscines. Des jeunes gens cool sirotaient des cocktails, écoutaient de la musique légère. Ça se baignait, ça rigolait. Tous ces estivants qui sirotent des cocktails sans avoir l'air de se préoccuper de la guerre. J'avoue, cela m'a fait un choc. Je revenais tout juste de la zone de combat et d'entraînement. Alors, imagine. Et puis, malgré moi, j'ai été émerveillé. J'admirais toutes ces choses que j'avais quasiment oubliées. J'ai tout de même reconnu un petit groupe de gens normaux. On va dire normaux, selon moi. J'ai reconnu la coupe de cheveux, les tatouages aux références scandinaves, les tridents ukrainiens, les bracelets et les montres militaires, les barbes. Et surtout, signe le plus distinctif d'entre tous, les regards. C'étaient mes frères d'armes, des soldats. On s'est reconnus tout de suite. J'ai acheté une limonade et je me suis assis sur le banc pour profiter du coucher de soleil. C'était si beau, le fleuve, les derniers rayons du crépuscule. J'ai fini ma limonade et j'ai couru en haut de la colline. Et puis, j'ai eu un appel. Je devais revenir tout de suite sur la zone de combat, près de la ligne de front. J'ai pris la jeep et en route. Un camion en face de moi avait l'inscription « Valhalla Express ». Blague un peu sinistre. Dans l'armée, ils semblent tous obsédés par le Valhalla, le paradis des soldats morts. Je roulais en direction d'un endroit qui jadis était une petite ville, sauf qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas un seul immeuble intact. Tout a été détruit. J'ai laissé la jeep à 300 mètres du bunker où je devais me poser. Je suis entré dans un immeuble proche, une cicatrice de guerre à lui tout seul, tout en ruine. Et là, il y avait un gros nounours en peluche, immense, assis par terre, près de l'endroit, comme une créature vivante gardant l'endroit. Soudain, une porte s'est ouverte, quelque part à l'étage. Et dans cet immeuble détruit où chaque mur est transpercé par les éclats d'obus, une femme, d'une quarantaine d'années, est apparue. Moi, j'avais mon gilet pare-balles, mon casque, mes armes. Et elle, elle était juste en robe de chambre, complètement indifférente au bruit des explosions. Nous étions là, face à face, deux étrangers qui se croisent pour une seconde. J'allais rejoindre mon bunker et elle, ben je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de poser de questions, mais j'ai pensé à elle tout le temps, quand j'ai regagné le bunker, lui aussi, parsemé d'éclats. Sur notre messagerie, il y avait une alerte. Un missile fonçait pile dans notre direction. J'ai couru vers la Jeep, à côté de l'immeuble. Et je n'arrivais pas à m'ôter cette vision de la tête. On entendait toujours le vacarme de l'artillerie, des tirs. Personne à l'entrée, sauf le nounours en peluche, assis, seul, désespérément seul dans les décombres. Les fenêtres fracassées, les murs détruits. Et cette femme qui vivait encore là, dans ses ruines, seule. Voilà à quoi ressemble l'enfer, mon amour. Et le plus effrayant, c'est qu'on s'habitue à tout, à l'enfer comme au paradis. Je ne comprends pas encore ce qui se passait dans sa tête, mais la seule chose que j'ai vue dans ses yeux, c'est l'indifférence. Cette indifférence gagne les gens, indifférence au danger, au risque, à la mort. J'appelle ça l'effet enfer. Je te promets, mon amour, que je ne me laisserai pas gagner par ça. Je te promets que je vais faire attention. Je t'aime encore et toujours, et de plus en plus. Pavlo. Ma chérie, tu sais que je t'aime tellement.
Et tu sais aussi que mon chantage est assez simple. Je veux que tu quittes l'armée.
En vérité, je serais capable de te faire des choses terribles si tu décidais de me quitter.
Je n'ai pas peur.
Pourquoi ?
Parce que la peur, ça t'enferme. Si nous restons ensemble, je veux que ce soit par amour et pas parce que j'ai peur que tu fasses quelque chose.
Je croyais que c'était pour une raison plus simple. Être avec moi.
Mon cher Pavlo, je suis toujours heureuse de recevoir tes lettres. Cela veut dire que tu es vivant et que tout va bien. Je viens de me réveiller et le soleil brille. Il fait déjà très chaud. Je me demande comment tu tiens le coup et comment tu réussis à bouger avec tout ton attirail et ces températures caniculaires. Tu évoques les mines restées dans le sol ukrainien. Je me souviens d'avoir traduit une conférence à Sarajevo en 2014. Ce qui m'avait le plus frappé, c'était tous ces panneaux près des champs. Attention, mines. La guerre en Yougoslavie s'était déroulée 20 ans auparavant, mais pourtant ces deux décennies n'avaient pas été suffisantes pour déminer entièrement le territoire. J'espère que les technologies ont suffisamment avancé et que nous pourrons en bénéficier. J'ai lu récemment quelque chose sur cet étudiant ukrainien Ihor Klimenko qui a inventé un drone capable de détecter des mines. Je me souviens que quand j'étais petite, il y avait des personnes mutilées dans la rue qui mendiaient. C'était juste après la guerre en Afghanistan. Et tellement de vétérans étaient revenus amputés. J'espère que nos vétérans à nous seront mieux aidés par notre gouvernement et la communauté internationale et qu'ils ne seront pas obligés de mendier dans la rue. Mon père me disait toujours de ne jamais rien ramasser par terre, que ce fût un jouet ou un simple stylo, car l'objet pouvait être miné. En 2015 ou 2016, je ne sais plus, j'ai été interprète pour nos militaires. L'un de nos officiers a fait un exposé sur les techniques de déminage Il nous a aussi fait visiter un petit musée, pour ainsi dire, constitué d'objets que les Russes avaient minés. Il y avait un ours en peluche. J'ai alors tout de suite pensé à papa et à ses mises en garde quand j'étais enfant. Il y avait tellement d'objets incongrus dans ce musée. Une armoire, un frigo, une porte, un canapé, une poupée. Dans ce qu'il nous avait raconté, ce qui m'avait le plus frappé, c'est que les Russes avaient déjà miné un chat. Oui, un chat. Et j'ai lu récemment un article dans la presse ukrainienne expliquant que les Russes minent aussi leurs propres cadavres de soldats. Cela fait une drôle de liste, non, tous ces objets minés. Les Russes avaient même miné un piano à Boutcha. Un piano. Ah, ce piano miné à Boutcha me refait penser à mon piano abandonné à Kiev. Il a été fabriqué en 1905 en Autriche. C'était un trophée de la Seconde Guerre mondiale. Ma mère, Lyubov, l'avait acheté à un professeur de musique juif quand il a immigré en Israël au début des années 90. Ce piano a survécu à tant de guerres, comme un témoin silencieux de nos drames et de nos joies. J'espère qu'il sera le témoin d'autres moments de bonheur quand nous nous retrouverons. J'ai si hâte de te revoir. Bisous, Victoria.
Bonjour, mon amour. Comment ça va à la maison? Je suis sûr que tu profites des enfants et que tu savoures ces moments de gros câlins quand ils te sautent dessus en te mangeant de bisous. J'adorais ces moments où on était tous ensemble, écrasés les uns sur les autres. Je viens de recevoir un message sur Instagram d'une petite fille. C'est la fille d'un des soldats de notre unité, un homme qui vient, hélas, de périr au combat. Elle monte une pétition pour qu'il soit décoré à titre posthume. C'est important qu'il ait cette décoration pour sa petite princesse qui le pleure. J'ai tellement de peine pour elle. Tu sais, nous sommes entourés de héros. Hier, j'étais sur la route en zone de combat. À gauche, il y avait une école qui a été détruite par des missiles russes. À droite, un café routier où les soldats peuvent s'acheter un café pour 40 centimes d'euros. Moi aussi, ça m'arrive d'aller prendre mon café là. La serveuse est grande, jeune, très belle. Elle sert des gars qui viennent du front ou repartent vers le front. Elle fait attention à chacun d'entre nous. Elle sourit et à chaque tasse de café chaud qu'elle sert, c'est comme se rassasier d'un peu de tendresse. J'ai regardé trois moissonneuses batteuses géantes qui avançaient placidement à travers les champs de blé. On aurait dit des éléphants majestueux et tranquilles. À l'infini, les champs de blé près du front attendent d'être fauchés. Nos éléphants mécaniques vont lentement, imperturbables, pas effrayés par les tirs d'artillerie. Ils savent quel est leur rôle dans cette guerre. Les fermiers, les agriculteurs, font leur boulot. Malgré les bombardements incessants, malgré les mines, malgré la pression des prix, l'envolée des coûts logistiques, l'agriculture, c'était notre trésor. Nous étions le premier producteur d'huile de tournesol, un des leaders dans le maïs et le blé. Et voilà que 5 millions d'hectares de ces terres sont désormais inaccessibles à cause de la guerre. Mais malgré tout ça, les éléphants d'acier sont toujours dans les champs. Moi, j'entends le vacarme de l'artillerie, mais qu'importe. Ils restent à leur poste. Les héros, oui, ils sont partout. Ils ont le visage de cette caissière dans le café proche du front qui sert les soldats. Ils ont le visage de cette petite fille orpheline. Ils ont le visage des fermiers qui labourent les champs. J'aime notre peuple ukrainien. Je suis fier, ma chérie, que nous soyons ukrainiens. Nos enfants auront ce privilège de grandir dans un pays plein d'opportunités. Je le crois tout autant que je crois en notre victoire. Je t'aime. Pavlo.
Bon, alors tu vas aller à la convocation du tribunal pour le divorce? C'est bientôt.
Ah non, mais tu veux toujours divorcer?
Tu sais, rien ne nous interdit de nous remarier.
Même si nous divorçons, restons amants. Alors.
Sprava v tom, šo u meni nema to i zapravilom dobru o ton, jak zapravilom dobru o remini. Zadaj z jakoja ja plemi, prijadaj z jakoja mi stav i čekaju na svoje gre. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. Люди такі, люди такі, сути за день свої бетоні, сути я день шахуватись, суханути люди.
Mon cher Pavlo, je me sens inquiète, angoissée. Tu sais, juste après avoir reçu ta lettre, j'ai appris que notre amie Victoria Amelina était morte à l'hôpital. Mon Dieu, le cercle des écrivains tués par les Russes est en train de devenir de plus en plus grand. Je me souviens qu'en novembre dernier, j'avais été interprète au sein du Parlement européen, où notre ami poète Zeri Zadan a été invité à s'exprimer. Il avait annoncé que ce jour même, il avait appris que Volodymyr Valoulenko, le poète et écrivain de littérature jeunesse de la région de Kharkiv, était mort. Porté disparu depuis plusieurs mois, il a été kidnappé par les Russes, puis torturé et finalement tué. Il avait écrit un journal de l'occupation, l'avait caché sous terre, sous un cerisier, juste avant d'être kidnappé. C'est Victoria qui a retrouvé ce journal et qui l'a rendu public. J'avais croisé Victoria en avril à la Foire du Livre de Londres. Elle travaillait sur les crimes de guerre commis dans l'est de l'Ukraine. Lors d'une conférence, elle a évoqué cette nouvelle renaissance ukrainienne exécutée, ces actes commis par les Russes et qui rappellent une page sombre de notre histoire. Les années 1930, quand le NKVD, l'ancêtre du KGB, venait arrêter tous les écrivains et artistes ukrainiens, soit pour les tuer, soit pour les déporter dans les camps de Solovy. Un à un, sous l'accusation de nationalisme. On appela cette période la Renaissance ukrainienne exécutée. Cette époque où méthodiquement toute l'élite intellectuelle ukrainienne fut éliminée. Nous sommes en train de vivre exactement la même chose. Volodymyr Vakulenko a été torturé et abattu pour cause de nationalisme. La liste des artistes qui ont péri pendant cette guerre s'allonge de jour en jour. Et voilà que l'impensable arrive. Victoria est sur cette liste. J'espère que les artistes qui survivront ne resteront pas silencieux. J'espère que leurs voix se feront entendre dans le monde entier. Je ne crois pas qu'ils soient obligés de n'écrire que sur la guerre, non. Mais je veux qu'on entende leurs voix. Tu sais bien que je me bats depuis des années pour réparer cette injustice. La littérature ukrainienne est sous-représentée dans le monde, très peu traduite, écrasée par la littérature russe. Leur propagande a été si efficace. Ils ont l'argent, les soutiens, et ça se ressent encore aujourd'hui dans tous les festivals littéraires du monde entier. Les Russes sont partout. C'est à nous, Ukrainiens, de changer la donne. Alors je t'en supplie, Pavlo, n'arrête surtout pas d'écrire. Je sais que c'est difficile de là où tu es, mais continue, tu en as la force. Envoie-moi quelques chapitres de ton prochain roman quand tu le pourras. J'ai beaucoup aimé ton dernier poème. Bisous, Victoria.
Madivchenko, comment vas-tu? Continues-tu à arpenter les routes pour le travail? Moi, oui. Récemment, je me suis souvenu des endroits où j'étais allé en Ukraine, avant cette guerre. Qu'avais-je vu de notre pays alors? Pas grand-chose. Car pendant ces 15 derniers mois, mes horizons géographiques se sont singulièrement étendus. J'en ai parcouru des routes en Ukraine. Des routes de campagne poussiéreuses, des routes goudronnées, sinueuses, des routes glissantes de pluie. L'hiver dernier, je me souviens des routes verglacées, quand les Russes bombardaient toutes nos infrastructures énergétiques. Alors, à cause de ces foutus bombardements, il n'y avait pas d'électricité dans tout le pays. Il faisait un froid de gueux, partout, dans la rue, dans ton lit, dans ton bureau, les pieds gelés. Parfois, j'avais envie de tout laisser tomber, d'aller courir dans la neige et oublier tout ça. Les sessions d'entraînement, la guerre. J'avais l'impression qu'on était en plein chaos. Bon Dieu, il faisait si froid. Parfois, j'ai l'impression que le chaos, c'est la définition de la guerre. Et nous, les soldats, nous avons cette tâche immense. Tenter d'orchestrer ce chaos, d'apporter de la lumière dans l'obscurité. La guerre, c'est décidément une affaire de saison chaude. Nous n'avons pas reçu assez d'armes à temps et je crains que nous ne puissions terminer notre job avant le début de l'hiver, ce qui va encore rallonger la guerre jusqu'à l'année prochaine. J'espère que nos alliés comprennent que c'est leur intérêt de nous envoyer le plus d'armes possible, le plus vite possible. Bien sûr, aujourd'hui les combats sont cantonnés au territoire ukrainien, tant mieux pour le reste de l'Europe, mais cette guerre inhumaine est déjà en train de tout changer. Et donc me voilà sur la route. Et c'est l'été. Tu sais, l'été dans le sud de l'Ukraine est merveilleux. Tu conduis et tu traverses des paysages charmants, des lacs, des champs ou un village envahi de verdure et cette herbe couleur d'olive qui sent comme le miel partout. Sais-tu que la route qui mène à Zaporizhia s'appelle aussi l'autoroute du soleil, comme en France? Sauf que celle-là te mène direct dans le cœur de la guerre. Et ce que je préfère, ce sont les coquelicots le long de la route, ceux qui poussent à travers les champs de blé. Ils me rappellent nos disparus, nos frères morts au combat. Mais ils me rappellent aussi que j'étais, que je suis, un écrivain. Mon roman ne s'appelait-il pas « Le coquelicot » Des villageois sur leur vélo, des soldats postés devant les maisons des villages, des enfants très jeunes qui fument le long de la route, des enfants qui marchent sous le bruit de la canonnade, bref, des enfants de la guerre. J'ai l'impression d'avoir tant voyagé, d'avoir tant vu pendant ces 15 mois de guerre, comme si j'en avais plus appris sur mon pays, l'Ukraine, que dans toute ma vie d'antan. Je pourrais te parler si longtemps de la beauté de l'Ukraine, mais je préfère conclure en parlant de ta beauté, mon amour. Je t'aime. Pavlo.
Mon cher Pavlo, il est tard, les enfants dorment. Cette lettre sera brève, car moi-même je tombe de sommeil. Ça m'a pris du temps de les mettre tous au lit. Tu sais, ça leur manque tellement ce moment avec toi, quand tu les bordais et que tu leur racontais une histoire avant d'aller dormir. Tu sais, maintenant, ils parlent tous très bien français. C'est fou la vitesse à laquelle les enfants apprennent les langues étrangères. Aujourd'hui, ils se moquent même de mon accent quand je parle français. Mais je les ai repris. Je leur ai expliqué que ce n'était pas très gentil de se moquer de l'accent de quelqu'un, que ça pouvait être vu comme du racisme. Alors ils ne disent plus rien. Au début de notre séjour en France, quelqu'un a essayé de me convaincre de ne plus parler que français avec eux à la maison pour qu'ils apprennent plus vite la langue. J'ai refusé. C'est très important pour moi qu'ils gardent leur identité ukrainienne via la langue. Les enfants de certains de mes collègues ukrainiens qui vivent en France ou en Allemagne ne savent plus parler ukrainien. C'est tellement plus facile de parler la langue de l'école avec les copains de classe. Lucas est rentré à la crèche en janvier. Deux semaines après, j'ai remarqué qu'il parlait en français quand il jouait avec ses figurines. Tu sais aussi bien que moi que la langue est un instrument de pouvoir. Quand un peuple veut en coloniser un autre, après les armes, il passe toujours au niveau de la langue. Bisous, Victoria.
D'où réveille, Divchenko.
D'où réveille. Tu triches. Tu m'as déjà envoyé une lettre à 5h du matin.
Mais tu dormais, ça ne compte pas.
Oui, mais j'ai commencé à la lire avant ton texto de ce matin. Mon cher Pavlo, quand tu m'as dit que tu allais rejoindre l'armée, je t'ai soutenu, parce qu'à ce moment-là, moi aussi je me sentais prête à faire comme toi, à tout faire pour défendre notre pays. Le pourcentage de femmes dans l'armée ukrainienne est un des plus élevés au monde. Alors ça m'a semblé naturel. Plus tard, quand je me suis retrouvée toute seule en France, avec les enfants, avec tout le fardeau du quotidien que je devais gérer, toutes les incertitudes et parfois ce désespoir qui m'envahissait, je me suis sentie complètement abandonnée et j'étais très en colère contre toi. J'avais peur de te perdre d'abord, mais aussi je me sentais lésée. Je devais m'occuper de tous ces petits détails de la vie quotidienne, tandis que toi, tu remplissais ton devoir, ta mission, tu défendais ton pays. Je voulais avoir les mêmes droits que toi, pouvoir moi aussi aller défendre mon pays. Je t'ai même suggéré d'échanger nos places au bout d'un an. Toi, tu resterais avec les enfants en France et moi, j'irais à l'armée. J'ai même eu une offre de recrutement d'une unité. Je ne me souviens pas de ce que tu m'as alors répondu. Non, je suppose. Plus tard, j'ai compris que je n'avais pas ce droit-là, parce que j'avais la responsabilité de nos enfants, de leur futur. Bien sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais prendre un risque supplémentaire... Intentionnellement, ce n'est pas très sage quand on est une mère de 4 enfants. Nos enfants sont déjà suffisamment inquiets avec toi à l'armée et moi qui dois souvent voyager pour le travail. Ils ne me montrent pas leur anxiété, mais je sais déchiffrer leurs mots et leurs regards. Laura dit qu'elle voudrait être interprète, comme moi. Mais sans les déplacements professionnels pour pouvoir rester avec ses enfants. Ou quand nous discutons de ton retour, je leur ai dit que si tu revenais, ce serait toi et non quelqu'un d'autre qui serait à leur côté quand je dois m'absenter pour le travail. Lyubava m'a alors dit que je n'avais pas compris. Ils voulaient avoir leurs 2 parents avec eux au même moment. Je vais être honnête, j'ai l'impression d'avoir oublié ce que ça veut dire de vivre en couple, à deux. Je crois que nous devrons réapprendre tout cela depuis le début. J'attends que tu prennes la décision. J'attends que tu nous rejoignes enfin. Bisous, Victoria.
Mon amour, c'est aujourd'hui le 24 août, la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Il s'agit du 32e anniversaire de notre indépendance. Mais nous en sommes aussi à 1 an et demi pile depuis l'invasion à grande échelle. Quand j'ai rejoint l'armée, le printemps dernier, je ne pensais pas que ce serait si long, que je me retrouverais embarqué, flottant sur cette interminable rivière, alors que tout, absolument tout, changerait pendant cette période, le pays et nous. Comme beaucoup d'engagés, je croyais naïvement que tout serait fini en 2023, surtout après notre contre-offensive victorieuse sur Kharkiv à l'automne 2022. C'était un peu de la pensée magique. Je m'excuse de t'avoir fait attendre si longtemps. Tu es décidément une femme incroyable. Je suis si fière de toi. Nous avons traversé tant d'épreuves et d'autres nous attendent. Mais nous allons désormais partager ces joies et ces difficultés ensemble. Car j'ai pris enfin la grande décision. Je vais démissionner de l'armée. Oui, tu as bien lu. J'ai fait mon choix. Je veux être avec ma famille, avec mes enfants et avec toi. Est-ce que la décision a été difficile à prendre ? Ces derniers mois, il n'y a pas eu un jour où je ne me suis pas demandé si j'en avais fait assez, où ma présence est la plus nécessaire, ce que je devais faire pour être le plus utile. On m'a déjà demandé pourquoi j'étais allé à la guerre alors que j'étais un père de 4 enfants, que je n'étais pas soumis à la mobilisation et que la plupart des pères ont fait un autre choix. À cette époque, je disais que je faisais cela pour le futur de mes enfants. Maintenant, je réponds la même chose si on me demande pourquoi je quitte l'armée. Pour le bien de mes enfants, pour leur futur. Tu sais, j'ai besoin de réapprendre à connaître le plus petit, Lucas, qui a 3 ans. Il a vécu la moitié de sa vie sans moi. J'ai envie de l'emmener à la petite section le matin pour qu'il puisse sentir fièrement la grande main de son papa, toute chaude dans la sienne. Je veux pouvoir expliquer moi-même à mes enfants ce qu'est l'indépendance, pourquoi elle est si importante, pourquoi ça vaut le coup de se battre pour elle. Je veux qu'ils entendent de ma bouche ce que ça signifie d'aimer son pays. J'espère que mon exemple et mes choix les inspireront. Mais aussi j'espère que toi, Divitchenko, tu seras heureuse de ma décision et que tu m'aimeras, avec encore plus de force qu'avant. Car je sais que rien ne sera plus comme avant. Je ne sais pas combien de fois je te l'ai dit dans nos lettres. De quoi demain sera-t-il fait? Déjà, je veux qu'il y ait de l'amour, encore plus fort, encore plus tendre. Après ces mois de guerre, l'amour m'a tant manqué. J'ai envie de ressentir ton amour dans tes caresses, dans tes sourires. Je veux te donner mon amour. Bien sûr, la guerre continue et la fatigue est là, chez les soldats qui ont besoin d'être remplacés, dans la société qui n'en peut plus de toutes ces épreuves qu'elle traverse. Nous avons déjà payé un prix trop élevé pour nous replier maintenant. C'est trop long encore, car chaque jour est long, trop dur, comme une coupe de douleur trop amère et impossible à boire. Je me souviendrai toujours de mes camarades tombés au combat, ceux que je connaissais, ceux que je ne connaissais pas. Cela, je le ressens avec mon cœur, pas avec mon cerveau. En attendant, je veux t'embrasser tout entière. J'ai tellement hâte de vous revoir tous. Je t'embrasse, ma joie. C'est une vraie fête de l'indépendance pour nous, que nous avons méritée dans la bataille. À très bientôt, Divchenko. Pavlo.
Voilà pour Victoria et Pavlo et leurs enfants. L'histoire se termine bien. Et chacun continue à se rendre utile pour l'Ukraine. Pavlo y retourne régulièrement. Victoria œuvre pour faire mieux connaître les écrivains ukrainiens. Depuis la parution de « Lettres d'amour et de guerre » aux éditions L'Iconoclaste, on peut les retrouver sur Internet et mettre un visage sur leurs mots. Les 2 chansons qui accompagnent cette lecture font partie de la playlist de Victoria. 2 chansons du groupe Casca, la première « I am not okay » et la deuxième « Je n'ai plus de maison ». La principale difficulté de cette lecture pour Jean-Pierre et moi-même a été de choisir telle ou telle lettre et de délaisser d'autres lettres tout aussi passionnantes par leur thématique. Je vous invite à lire ce livre qui en dit bien plus sur la guerre en Ukraine que beaucoup de médias. Plus de 2 ans après, elle n'est pas terminée et n'occupe plus la première place dans les esprits. Les hommes ne s'engagent plus avec l'enthousiasme de février 22. Beaucoup trop de morts, pas assez de munitions. Ne les oublions pas. Je vous retrouverai en juin pour une nouvelle lecture. En attendant, n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.